voix nue. Toute cette semaine, Lydia Benitzrak rencontre Jean-Marc Lévy-Leblond. Ce soir, Science ouverte, la vie de l'éditeur.
Jean-Marc Lévy-Leblond, nous évoquions hier ici à l'École normale supérieure de Paris les difficultés de la carrière de chercheur, mais heureusement les bonnes surprises aussi sous forme de sérendipité, cette possibilité de trouver des choses par hasard.
Oui, encore que par hasard est probablement trop fort, parce que comme Sylvie Catelin l'a merveilleusement expliqué dans un livre tout récent, que j'ai eu le bonheur de publier dans la collection que je dirige au Seuil, livre qui s'appelle « Sérendipité », elle montre bien que le terme est un peu galvaudé en ce moment, dans la mesure où effectivement on l'assimile à des découvertes totalement aléatoires. Alors que, autant par son origine historique, qu'elle retrace merveilleusement, que par la réalité à quoi ça correspond, c'est par hasard et par sagacité, c'est-à-dire c'est la capacité d'exploiter le hasard quand il se présente. Le hasard, on ne l'évite pas, il est toujours là, mais encore faut-il savoir profiter des bonnes occasions. Bon, c'est ce que Pasteur avait déjà dit dans une phrase célèbre, qui est un peu impensif, mais je pense qu'il est valable. Il disait « le hasard ne favorise que les esprits préparés à l'avance, à le recevoir ». Donc, effectivement, savoir profiter d'une rencontre inédite, d'un clin d'œil de l'histoire, c'est quelque chose qui est constitutif, je crois, d'un métier de chercheur réussi. Mais alors ça a une conséquence, c'est-à-dire que ça veut dire que pour être un bon chercheur, à mon avis, il ne faut pas être que chercheur. Il ne faut pas être que scientifique pour être un bon scientifique. Il faut être ouvert à absolument tout ce qui peut vous arriver de l'extérieur, que ça passe par des rencontres individuelles, affectives, pourquoi pas, ou que ça passe par la littérature ou d'autres formes culturelles. C'est ce que Paul Feyerabend, qui est un des quand même plus grands philosophes des sciences de la fin du XXe siècle, voulait dire quand il disait « pour faire de la science, tout est bon ». Tout est bon, voudrait peut-être mieux dire « tout peut être bon ».«
Anything goes ».«
Anything goes », qui est pas très bien traduit en français. Même en anglais, d'ailleurs, voudrait mieux dire « anything can go hein ». Et donc, tout peut faire profit. Et donc, c'est pour ça que depuis longtemps, moi, je milite, avec un succès un peu limité pour l'instant, mais sait-on jamais, pour que la formation des scientifiques soit beaucoup plus large qu'elle ne l'est à l'heure actuelle, et qu'ils aient une ouverture culturelle, ne fût-ce que d'abord dans leur propre domaine. C'est quand même un paradoxe incroyable que les jeunes scientifiques ne reçoivent pas une initiation minimale à l'histoire des sciences, à la philosophie des sciences, à la sociologie des sciences. Et à mon avis, la question là n'est pas simplement de leur donner un supplément d'âme qui leur rendrait la vie plus agréable. Non, c'est par rapport à l'efficacité même de leur travail de scientifique.
Jean-Marc Lévy-Leblond, vous avez beaucoup réfléchi à ce statut d'enseignant-chercheur.
Oui, parce que la conclusion que je tire de ce que je disais sur le métier de chercheur et sa difficulté, ce que nous disions hier, en partie sur le caractère, les butées psychologiques qui se matérialisent dans ce travail du chercheur, fait que je pense que l'activité de recherche est psychologiquement une activité extrêmement frustrante, parce que vous passez quand même un temps fou à rater vos calculs, rater vos expériences, ne pas trouver ce que vous espérez, etc. Et donc, ne serait-ce que pour cette raison-là, il me semble que avoir une conception du métier de scientifique qui soit plus large que celle du métier de chercheur auquel on a tendance à le réduire aujourd'hui, me paraît absolument essentiel. Ce qui veut dire, faire de la science, c'est faire de la recherche, mais c'est aussi faire de l'enseignement, ou plus généralement, une activité de partage du savoir. Et parce qu'elle offre quand même des gratifications plus immédiates. Quand vous avez des étudiants ou des élèves en face de vous et que vous sentez que vous arrivez à leur faire comprendre, au moins quelques-uns, quelque chose de difficile, c'est vraiment exaltant. Vous êtes content en sortant de là. Et même si vous avez passé le reste de la journée à rater vos, à ne pas résoudre vos équations ou à ne pas régler votre appareil, au moins là, vous aurez acquis quelque chose qui sera que vous rentrerez content chez vous. Et puis il y a une deuxième raison qui me paraît au moins aussi importante, c'est que quand on produit du savoir nouveau, et ce que je veux dire s'applique aussi bien aux miettes de savoir que produisent, que nous, la plupart des chercheurs, produisons. Nous ajoutons des petites pierres à un édifice considérable. C'est valable aussi bien pour ces petites contributions que pour les grands apports des quelques génies qui existent dans ce domaine. C'est que ceux qui produisent des idées nouvelles ne sont pas nécessairement ceux qui les comprennent le mieux. Qu'une idée neuve n'est en général pas formulée dans les termes où elle est la plus claire. Elle émerge embarrassée dans toute une gangue des idées anciennes même qu'elle va dévaloriser et remplacer. C'est comme en histoire, c'est plus simple de l'expliquer dans le cas de l'histoire sociale et politique. Une révolution historique n'est jamais parfaitement consciente d'elle-même au moment où elle se déroule. Les gens ne savent pas exactement ce qu'ils font, où ils vont, ne maîtrisent pas la trajectoire historique qu'ils ont mise en jeu. Regardez par exemple, tout simplement, notre bonne histoire de France. Nous faisons la Révolution en 1789. Il va falloir quasiment un siècle pour qu'un système républicain à peu près stable et cohérent, avec toutes ses limites aussi, s'installe. Entre 89 et, mettons, 1870, nous allons connaître l'Empire, la Restauration, la Monarchie de Juillet, la Deuxième République, le Second Empire, la Commune, etc. Eh bien, il y a donc toute une phase après une révolution historique, je crois que c'est vrai de toutes les révolutions historiques, il y a une phase très très longue où la société a besoin de comprendre et de digérer elle-même ce qu'elle est en train de faire. Et bien dans le domaine de la connaissance, dans le domaine de la science, il en va de même. Entre le moment où apparaissent les premiers germes d'une théorie et le moment où elle s'installe d'une façon à peu près maîtrisée, peut s'écouler un temps assez long. Vous savez, les idées, c'est comme les bébés. Quand ils naissent, d'abord, il faut commencer par les nettoyer. Et il faut les envelopper pour qu'il n'ait pas trop froid. Il faut soigneusement les protéger pour qu'ils grandissent, les entourer pour qu'enfin ils deviennent adolescents et éventuellement adultes. L'histoire des idées, scientifiques entre autres, c'est la même chose. Et alors, pourquoi je développe ce point de vue-là ? Parce qu'il a, à mon avis, beaucoup à voir avec l'enseignement. C'est-à-dire que cette période de ce que Bachelard appelait la nécessité de la refonte épistémologique, après les ruptures, il faut une refonte, un remodelage, est à mon avis largement aidée et favorisée par la transmission du savoir. C'est quand vous êtes amené à partager une connaissance que vous êtes obligé d'approfondir la compréhension que vous en avez. Souvent, vous avez appris au lycée ou à l'université, puis bon, vous savez reproduire plus ou moins bien les explications ou les énoncés qu'on vous a donnés. Et puis, devant les élèves ou les étudiants, vous apercevez que ça ne passe pas. Vous voyez ce que j'aime bien appeler des éclairs d'incompréhension dans les yeux des bons élèves. Et à ce moment-là, vous dites, mais ils ont raison de ne pas comprendre, c'est pas clair. Ce que je leur ai dit n'est pas clair, c'est moi qui ne l'ai pas encore suffisamment compris. Et donc, vous retournez et, dans le meilleur des cas, vous arrivez à mieux comprendre. Ça, c'est une expérience qui, pour moi, a été très forte. Une bonne partie de mes travaux de recherche fondamentale, est née de mon expérience d'enseignement. C'est-à-dire, elle est née quand j'ai détecté ces éclairs d'incompréhension, que j'ai vu que la question n'était pas réglée, qu'elle soulevait encore des problèmes. Alors c'est pour cette raison qu'il me semble que séparer les activités de recherche et les activités d'enseignement, si cela peut être et avoir été à certains moments un atout pour le développement de la science, en France en particulier, finit par devenir contre-productif. Et que moi, je plaide pour une recomposition des tâches sous des formes évidemment souples. Il ne s'agit pas d'obliger tous les chercheurs à faire la moitié de leur temps d'enseignement, ni réciproquement. Mais qu'au moins, il y ait un couplage qui soit constitutif du métier de scientifique.
Aujourd'hui, en France, Jean-Marc Lévy-Leblond, dans la recherche, il y a deux maîtres mots qu'on entend régulièrement. Ce sont le mot « innovation », comme si l'objet de la recherche avait été autre chose que de chercher du nouveau. Et puis, l'autre mot magique, c'est « interdisciplinarité ».
Oui, alors « innovation », il est clair que ce mot vise non pas la recherche du nouveau en général, qui évidemment est le propos même de la recherche, mais c'est un mot qui est associé au vocabulaire technique et industriel, et donc qui traduit le fait qu'une bonne partie de la recherche scientifique aujourd'hui est assignée à des fins concrètes et pratiques. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas sans poser des problèmes de plus en plus graves. Non pas que je refuse évidemment l'idée que la recherche puisse être utile. Encore faut-il savoir utile à qui et à quoi. Qu'elle puisse être utile à l'amélioration de la santé de l'humanité, dans le cadre des sciences de la vie, je ne peux que m'en réjouir. Si en revanche elle est utile à l'accroissement des bénéfices des multinationales de la pharmacie, je me permets de trouver ça moins positif. Or, c'est bien ça la situation d'aujourd'hui, c'est-à-dire que la recherche est de plus en plus sollicitée pour aboutir à des résultats monnayables, marchandisables à court terme. Et que la part de la puissance publique diminue au profit des financements privés qui, eux, évidemment, ne se font pas à fond perdu sur des temps illimités. Et donc un jeune chercheur aujourd'hui qui dirait « voilà, moi j'ai des idées très neuve, très fondamentale pour, je ne sais pas, moi, remplacer la théorie de la relativité d'Einstein. Qui, un jour ou l'autre, il faudra bien faire mieux. Pour l'instant, on n'a pas su faire mieux. Un jeune chercheur qui dirait ça et qui dirait, oui, mais c'est une idée très préliminaire et donnez-moi ce qu'il me faut comme temps, comme argent et comme équipe pour travailler là-dessus pendant 10 ans, 15 ans. A de fortes chances de se faire répondre, écoute, tu es bien gentil, c'est un superbe programme, mais il vaut mieux que tu sois beaucoup moins ambitieux et que tu travailles sur un projet à court terme qui, lui, donnera des résultats assurés ou quasiment assurés dans les 2 ou 3 ans. Et oui, mais si on ne finance que des projets qui sont à peu près certains de donner des résultats, évidemment, on n'aura jamais les grandes surprises dues à des découvertes radicalement nouvelles. Donc moi, il me semble que ce maître mot d'innovation traduit essentiellement, pour l'instant, le passage des dernières décennies de ce qu'on a appelé science pendant un certain temps à ce qu'on devrait appeler aujourd'hui une technoscience, c'est-à-dire une science qui est tellement couplée à ses applications techniques, qu'elle a de moins en moins la dimension d'inventivité, de spéculation intellectuelle qui fait pourtant sa force, qui a fait sa force pendant quelques siècles.
Et pour, pour l'interdisciplinarité, tout dépend comment elle est menée.
Oui, alors c'est aussi un peu un miroir aux alouettes, l'interdisciplinarité, parce que bien sûr, la spécialisation aujourd'hui atteint des niveaux tels qu'on aimerait bien quand même pouvoir mieux échanger avec d'autres disciplines et travailler ensemble entre physiciens, biologistes, que sais-je encore. simplement présenter l'interdisciplinarité a priori comme la solution aux difficultés, il me paraît que c'est mettre la charrue avant les bœufs. Ce n'est pas parce que vous allez mettre ensemble des physiciens, des mathématiciens et des biologistes qu'automatiquement ils vont être capables d'avoir des idées nouvelles. Je n'en crois rien. Et de fait, on connaît peu, très peu, de réussites effectives dans ce domaine. Il me semble qu'en revanche, si les physiciens travaillent sur un problème pour lequel ils butent sur une difficulté, par exemple d'ordre mathématique, et qu'ils se disent « bon, on a besoin du concours de nos collègues mathématiciens », qu'ils aillent voir les mathématiciens qui, dans un premier temps, ne comprendront pas le problème de physique, et il faudra qu'ils travaillent un bon moment ensemble avant de se comprendre les uns les autres. Là, oui, ça peut déboucher. Et dans le cas particulier que je cite, entre physique et mathématiques, ça se fait depuis très très longtemps. On n'a pas eu besoin d'invoquer l'interdisciplinarité pour aller jusque-là. De même, dans le domaine des sciences de la vie, quand les biologistes tombent sur un problème dont ils se rendent compte que il requiert des connaissances physiques ou chimiques, ils n'ont pas besoin qu'on leur dise « il faut que vous pratiquiez l'interdisciplinarité pour aller voir leurs collègues ». Ça ne marche pas à tous les coups d'ailleurs, mais ils savent le faire.
Oui, il vaut mieux que ça émerge des chercheurs eux-mêmes.
Il faut que ça vienne des chercheurs eux-mêmes et que ça vienne des problèmes concrets qui, à un moment donné, surgissent et réclament cette forme. Au surplus, on peut rajouter quand même une remarque, c'est que ce travail interdisciplinaire a un aspect paradoxal, c'est que dans les cas où il réussit le mieux, il aboutit non pas à une fusion des disciplines, mais presque au contraire à l'émergence d'une nouvelle discipline. Je vais donner un exemple, parce que c'est un exemple d'une vraie réussite dans le développement des sciences. C'est quand, dans les années 1950-1960, les biologistes commencent à travailler au niveau moléculaire et vont commencer à travailler avec des chimistes ou des physiciens d'ailleurs. Et où va se créer un domaine qui est la biologie moléculaire ou la biochimie, qui est une discipline aussi différente de ce qu'était la biologie traditionnelle que de ce qu'est la chimie et la physique traditionnelle. Et donc on voit là que le travail sur cette frontière a abouti non pas à l'effacer, mais à créer une nouvelle discipline. Donc là, il y avait une frontière, il y en a maintenant deux autres. Ce qui n'est pas négatif en soi, puisque effectivement tout un champ nouveau est apparu. Mais je ne crois pas à l'éradication des frontières, et pour moi le mot discipline n'est pas un gros mot, je trouve que c'est un mot noble. Il faut avoir de la discipline quand on fait de la science. Je change légèrement le sens du mot, bien entendu. Mais la notion de discipline, pour moi, est une notion positive. Elle veut dire qu'on s'impose des contraintes qui sont des contraintes nécessaires au travail. Et que si ces contraintes s'avèrent trop rigides, alors là, oui, évidemment, il faut les bousculer et aller chercher ailleurs.
Traverser les frontières, Jean-Marc Lévy-Leblond, c'est ce que vous faites très régulièrement. Et par exemple, en 1972, vous allez commencer à diriger les collections scientifiques des éditions du Seuil, et parmi elles, la bien nommée Science ouverte. Alors, comment se déroule votre arrivée aux éditions du Seuil ?
Alors, ce qui se passe à ce moment-là, c'est que nous sommes donc au début des années 70, donc dans la... encore dans le mouvement post-68, donc un moment où les idées radicales continuent à avoir pignon sur rue. Et les éditions du Seuil ont joué à cette époque un rôle extrêmement important, car, et c'est vraiment un tribut que je veux rendre aux dirigeants, fondateurs et dirigeants de l'époque, qui s'appelaient Paul Flamand et Jean Bardet, qui avaient fondé cette maison qui était d'origine catholique, essentiellement après à la fin de la Seconde Guerre mondiale, des gens absolument remarquables parce qu'ils ont compris l'évolution sociale, ils ont compris ce qui était en train de se passer, en particulier en 68, ils ont vraiment ouvert le champ éditorial au nouveau vent venant de la contestation. Par exemple, sur le plan politique, en créant la collection Combat, qui a été une des collections phares de ces années-là. Mais ils ont été aussi sensibles à ce qui se passait dans le reste du domaine intellectuel. Ils ont ouvert tout le champ psychanalytique, tout le domaine lacanien est venu dans cette maison-là. Et ils avaient une collection qui s'appelait déjà Science ouverte, qui avait été créée vers les années 70, mais qui n'était pas véritablement ouverte, et dont les responsables n'avaient pas véritablement l'enthousiasme nécessaire pour mener à bien cette tâche. Et donc j'ai eu le bonheur qu'on se tourne vers moi. J'avais écrit un certain nombre d'articles de vulgarisation, de diffusion scientifique, et puis on connaissait un peu mes positions plus générales, et donc on m'a demandé si j'étais intéressé par la direction de cette collection. Et j'ai répondu oui avec enthousiasme, sans trop savoir ce qui m'attendait, parce que je ne connaissais absolument pas ce métier. Je me suis rendu compte que c'était un métier à part entière, et que il ne suffisait pas d'être chercheur scientifique d'un côté, et même enseignant très motivé de l'autre, pour être un bon éditeur. Donc j'ai dû apprendre les spécificités de ce métier, mais pour moi ça a été un vrai bonheur. Et pour moi, ce métier a toujours été dans la même trajectoire que celle que j'évoquais tout à l'heure, en disant à quel point pour moi le métier de recherche et le métier d'enseignant vont de pair. Je peux généraliser ça au métier d'éditeur, puisque c'est une autre forme de diffusion et de partage du savoir. Et ce qui m'a passionné et me passionne toujours dans ce métier que je fais maintenant, je dirais même pas que c'est un autre métier, c'est une autre composante de mon métier que je pratique depuis plus de 40 ans maintenant, c'est que j'y apprends énormément de choses, que ça enrichit ma réflexion sur ce qu'est la science, que ça me nourrit, et que j'y trouve un grand bonheur, surtout ces dernières années d'ailleurs, où ça me permet, moi qui suis véritablement en fin de carrière, de garder le contact avec les jeunes générations. C'est là que je retrouve des gens incroyablement brillants et tout à fait remarquables, qui auront la trentaine ou la quarantaine. Ça, c'est un bonheur.
Jean-Marc Lévy-Leblon, on a envie d'entrer dans les coulisses vraiment d'une maison d'édition, surtout en sciences. On se demande si, par exemple, pour vos collections, vous préférez privilégier des traductions, ou bien si vous attendez d'avoir des initiatives d'auteurs qui vous font des propositions spontanées, ou bien si, au contraire, vous allez demander un travail spécifique sur une thématique qui vous intéresse.
Alors, la troisième posture est celle que je préfère. C'est-à-dire que j'essaye de travailler véritablement comme directeur de collection, c'est-à-dire de lui donner une direction, de l'orienter en fonction des thèmes qui me semblent les plus importants aujourd'hui, et non seulement des thèmes scientifiques, mais aussi de l'écho que ces thèmes ont dans le monde social où nous vivons. Et donc mon objectif permanent, c'est de trouver des auteurs qui aient une double compétence, c'est-à-dire qui soient capables, d'une part, d'utiliser leur talent de chercheur et d'expliquer aussi clairement que possible les résultats de leur recherche, les contenus de leur discipline scientifique, mais en même temps, en mettant en évidence les problèmes qu'elle peut poser. Problèmes qui peuvent être de toutes sortes. Ça peut être des problèmes proprement philosophiques, des problèmes économiques, des problèmes sociaux. Et moi, je souhaite publier des livres dans lesquels le lecteur sorte en ayant, dont les lecteurs sortent en ayant eu la réponse à certaines questions qu'ils se posaient, mais en se posant des questions nouvelles. C'est ça le sens que j'attribue à cet adjectif ouverte, science ouverte. Ouverte à tous les vents, ouverte au questionnement, ouverte à la demande du lectorat. Donc ça, c'est un travail de prospection dans le milieu scientifique pour trouver ceux qui sont capables et qui ont envie de faire cela. Alors évidemment, ce n'est pas la seule source. Dieu merci, j'ai des propositions spontanées. dont je dois dire que la plupart du temps, elles correspondent à peu près à l'état d'esprit que je viens d'énoncer, puisque la collection existe depuis maintenant suffisamment longtemps pour que les auteurs putatifs sachent à peu près ce qui est attendu. Et puis vous parliez de traduction, oui, nous en faisons aussi, mais elle pose deux types de problèmes. D'une part, des problèmes strictement économiques. Traduction, ça coûte cher et ça rapporte peu. Ça rapporte peu au traducteur, ça rapporte peu à l'éditeur et ça coûte cher. Donc c'est un vrai problème économique, surtout dans un monde où l'édition est aujourd'hui sous pression. Mais un deuxième problème qui n'est pas purement matériel, c'est un problème d'environnement culturel, en ce sens que la façon dont je viens d'expliquer quelle était mon ambition éditoriale ne correspond guère à ce qu'on peut trouver, en particulier dans le monde anglo-saxon. Plus dans les pays latins, chez les Italiens, chez les Espagnols, pour des raisons tenant à la communauté intellectuelle et culturelle que nous avons avec eux, mais pas tellement dans les milieux anglo-saxons, où il y a d'excellents, excellents livres de vulgarisation, mais de vulgarisation au sens strict du terme, qui, pour mon goût, ne sont pas assez ouverts à cette interrogation critique que je développais. Alors, heureusement, il y a des exceptions. J'ai, par exemple, la grande fierté d'avoir été l'éditeur de la plupart des livres de Stephen Jay Gould, qui a été un des plus grands paléontologues, biologistes, spécialistes de la théorie de l'évolution, et qui, lui, avait une vision absolument exceptionnelle. C'était un homme d'une culture incroyable, qui avait une vision très aiguë et très critique. Mais c'est un peu exceptionnel.
Jean-Marc Lévy-Leblon, on reviendra demain sur le monde de l'édition et votre diagnostic, toujours à l'École normale supérieure à Paris.
Volontiers.
C'était À Voix Nue. Toute cette semaine, Lydia Benitzrak rencontre Jean-Marc Lévy-Leblon. Attaché d'émission, Claire Poinsignon. Prise de son, Yvan Turc, Clémence Bonfils. Réalisation, Anne-Pascale Desvignes. Coordination, Sandrine Trainer. Cette émission s'écoute en ligne pendant une durée de 1000 jours et ce podcast pendant un an sur franceculture.fr. Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre de Lydia Benitzrak avec Jean-Marc Lévy-Leblon.